Navani était agenouillée près de lui, tenant sa planche à écrire devant elle, sa plume en mouvement tandis qu'elle rédigeait. Bourrasque, elle était splendide. Beauté mûre, lèvres peintes de rouge, cheveux enroulés autour de sa tête en une tresse complexe qui scintillait de rubis, robe rouge sang. Elle le regarda, nota qu'il se réveillait en clignant des yeux, et sourit. « C'était... » commença-t-il.
« Chut !»
répondit-elle sans cesser d'écrire.
Cette dernière partie semblait importante.
Elle écrivit un moment, puis retira enfin sa plume de son carnet. Elle tenait celui-ci à travers le tissu de sa manche.
« Je crois que j'ai tout. C'est difficile quand vous changez de langue. »«
J'ai changé de langue ?» demanda-t-il.
« Vers la fin. Auparavant, vous parliez sélaïen. Une forme ancienne de la langue, certainement, mais nous en avons des traces écrites. J'espère que mes traducteurs parviendront à déchiffrer ma transcription. Ma maîtrise de cette langue est rouillée. Il faut vraiment que vous parliez plus lentement quand vous faites ça, mon cher. »
« Ça peut être difficile sur le moment, » répondit Dalinar en se levant. En comparaison de ce qu'il avait éprouvé dans cette vision, l'air était froid ici. La pluie cinglait les volets clos de la pièce, mais il savait d'expérience que la fin d'une de ses visions indiquait que la tempête touchait quasiment à son terme. Épuisé, il se dirigea vers un siège près du mur et s'y assit. Seuls Navani et lui se trouvaient dans la pièce. Il préférait qu'il en soit ainsi. Renarin et Adoline attendaient la fin de la tempête non loin de là, dans une autre pièce des quartiers de Dalinar, sous le regard attentif du capitaine Kaladin et de ses gardes hommes de pont. Peut-être fallait-il qu'il invite davantage d'érudites à observer ses visions. Elles pourraient toutes écrire ses paroles, puis se consulter pour en produire la version la plus précise possible. Mais non des foudres! Il lui était déjà assez pénible qu'une seule personne l'observe dans un pareil état, alors qu'il délirait en se débattant par terre. Il croyait en ses visions. Il en dépendait même. Mais il ne fallait pas déduire pour autant qu'elle ne l'embarrassait pas. Navani s'assit près de lui et l'entoura de ses bras.
Était-elle pénible?
Celle-ci? Non, pas tellement. Des gens couraient, puis d'autres se battaient. Je ne participais pas. La vision a pris fin avant que je doive les aider.
Dans ce cas, pourquoi cette expression?
Il faut que je reforme les chevaliers radieux.
Que vous reformiez? Mais comment? Et qu'est-ce que ça signifie seulement?
Je l'ignore. Je ne sais rien. Je ne dispose que d'allusions et de menaces indistinctes. Quelque chose de dangereux approche. J'ai au moins cette certitude, et je dois l'arrêter. » Elle posa la tête sur son épaule. Il regarda fixement le foyer qui crépitait doucement, diffusant une lueur tiède dans la petite pièce. C'était là l'une des rares cheminées qui n'ait pas été équipée de ces nouveaux systèmes de chauffage fabriaux. Il préférait le feu véritable, mais ne l'avouerait jamais à Navani. Elle déployait tant d'efforts pour leur fournir à tous de nouveaux fabriaux.
« Pourquoi vous ?» demanda Navani. « Pourquoi faut-il que vous fassiez ça ?»«
Pourquoi un homme naît-il roi et un autre mendiant ?» demanda Dalinar. « Le monde fonctionne ainsi. »«
Est-ce facile pour vous ?»«
Facile, non, » répondit Dalinar. « Mais il est inutile d'exiger des réponses,
surtout si le Tout-Puissant est mort. »
Peut-être n'aurait-il pas dû partager ce point avec elle. La simple formulation de cette idée pouvait le faire qualifier d'hérétique, lui aliéner ses propres ardents, fournir à sa déesse une arme contre le trône. Si le Tout-Puissant était mort, que vénérait donc Dalinar? En quoi croyait-il?
Nous devrions consigner vos souvenirs de cette vision,
déclara Navani avec un soupir en s'écartant de lui.
Tant que vous les avez bien en tête.
Il acquiesça. Il était important de disposer de descriptions pour accompagner les transcriptions. Il se mit à raconter ce qu'il avait vu, parlant assez lentement pour qu'elle puisse tout noter. Il décrivit le lac, les vêtements des hommes, l'étrange forteresse au loin.
Elle affirma qu'il existait des récits parlant de grands édifices sur le lac Limpide, rapportés par des gens qui vivaient là-bas. Les érudits les considéraient comme mythologiques. Dalinar se leva pour faire les 100 pas lorsqu'il atteignit la description de l'effroyable créature qui avait surgi du lac.
Elle a laissé derrière elle un trou dans le fond, expliqua-t-il. Imaginez si vous deviez tracer le contour d'un corps par terre, puis regarder ce corps s'arracher du sol. Imaginez l'avantage tactique que posséderait une telle créature. Les Sprens se déplacent vite et avec aisance. L'un d'entre eux pourrait se faufiler entre les lignes de combat, puis se dresser et se mettre à attaquer au milieu des troupes. Le corps de pierre de la bête devait être difficile à briser. Nom des foudres. Les lames d'éclat. Je commence à me demander si ce n'est pas pour combattre ces créatures-là, en réalité, qu'on a conçu ces armes.
Navani sourit tout en écrivant.
« Qu'y a-t-il ? » demanda Dalinar, qui cessa de faire les 100 pas.
« Vous vous exprimez en vrai soldat ?»«
Oui, et alors ?»«
C'est touchant, » répondit-elle en terminant d'écrire. « Que s'est-il passé ensuite ?»«
Le Tout-Puissant m'a parlé. »
Il lui répéta le monologue aussi précisément qu'il put se le rappeler, tout en décrivant des cercles appallants et tranquilles.
« Il faut que je dorme davantage, » songea-t-il. Il n'était plus le jeune homme de 20 ans auparavant, capable de veiller toute la nuit avec Gavilar, verre de vin en main, pour écouter son frère établir des plans, puis de charger au combat le lendemain, plein de vigueur, assoiffé de défis.
Lorsqu'il eut terminé son récit, Navani se leva et rangea ses outils d'écriture. Elle allait confier son récit à ses érudites, enfin celle de Dalinar, qu'elle s'était appropriée, et leur demander de comparer la partie allaitie de ses propos avec les transcriptions qu'elle avait rédigées. Bien sûr, elle commencerait toutefois par supprimer les lignes où il mentionnait des passages sensibles, comme la mort du Tout-Puissant. Elle chercherait également des références historiques qui puissent correspondre à ces descriptions. Navani aimait que les choses soient claires et bien quantifiées. Elle avait préparé une chronologie de toutes les visions de Dalinar pour tenter de les assembler en une ligne narrative unique.
« Vous comptez toujours publier la proclamation cette semaine ?»
demanda-t-elle. Dalinar hocha la tête. Il l'avait dévoilée au Haut Prince la semaine précédente, en privé. Il avait eu l'intention de la dévoiler au camp le jour même, mais Navani l'avait convaincu qu'il était plus judicieux d'attendre un peu. La nouvelle commençait à filtrer, mais cette option-ci permettrait au Haut Prince de se préparer.
« La proclamation sera rendue publique d'ici quelques jours, » répondit-il, « avant que les Hauts Princes puissent exercer davantage de pression sur Elokar pour le pousser à se rétracter. »
Navani fit la moue.
« C'est nécessaire, » insista Dalinar.
« Vous êtes censé les unir ?»
Les hauts princes sont des enfants gâtés, rétorqua Dalinar. Il faudra des mesures extrêmes pour les faire changer.
Si vous divisez le royaume, nous ne pourrons jamais l'unifier.
Nous allons faire en sorte qu'il ne soit pas divisé.
Navani le jaugea de la tête aux pieds, puis sourit.
Je dois admettre que j'apprécie beaucoup cette version de vous plus confiante. Maintenant, si je parvenais à emprunter un peu de cette confiance pour ce qui est de notre relation.
J'ai une totale confiance en notre relation, répondit-il en l'attirant plus près.
Ah oui, car ces allers-retours entre le palais du roi et votre complexe me font perdre chaque jour une grande partie de mon temps. Songez comme tout serait plus pratique si je pouvais déplacer mes affaires ici.
Non.
« Dalinar, vous êtes persuadé qu'ils ne nous laisseront pas nous marier. Alors que pouvons-nous faire d'autre ?
Est-ce une question morale ?
Vous avez dit vous-même que le Tout-Puissant était mort. »
« Soit quelque chose est juste, soit il ne l'est pas, » s'entêta Dalinar. « Le Tout-Puissant n'entre pas dans l'équation. »
« Dieu, »
répondit Navani sur un ton neutre,
n'entre pas dans l'équation quand il s'agit de décider si ses commandements sont justes ou non ?
Eh bien non.
Prenez garde, répliqua Navani. Vous commencez à parler comme Jasna.
Enfin bref, si Dieu est mort, ce n'est pas Dieu qui est mort. Si le Tout-Puissant est mort, alors il n'a jamais été Dieu, c'est tout.
Elle soupira, toujours proche de lui. Elle se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa, d'une manière fort peu modeste. Navani considérait que la pruderie était réservée aux saintes nitouches et aux frivoles. Ce fut donc un baiser passionné, avide, qui pressait fermement contre les lèvres de Dalinar et repoussait sa tête en arrière. Lorsqu'elle s'écarta, Dalinar se retrouva essoufflé. Elle lui sourit, se retourna pour ramasser ses affaires. Il n'avait pas remarqué qu'elle les avait fait tomber lors du baiser, puis se dirigea vers la porte. « Je ne suis pas une femme patiente, vous le comprenez bien. Je suis aussi gâtée que ces hauts princes, et j'ai l'habitude d'obtenir ce que je veux. »
Il ricana. Rien de tout ça n'était vrai. Elle savait se montrer patiente quand ça l'arrangeait. Elle voulait simplement dire que ça ne l'arrangeait pas actuellement. Elle ouvrit la porte et le capitaine Kaladin en personne jeta un coup d'œil à l'intérieur de la pièce pour l'inspecter. L'homme de pont prenait sa tâche très au sérieux. « Soldat !» lui ordonna Dalinar. « Surveillez-la pendant son trajet de retour. » Kaladin le salua. Navani le contourna et partit sans un au revoir, fermant la porte et laissant Dalinar de nouveau seul. Ce dernier poussa un profond soupir, puis se dirigea vers le fauteuil et s'installa près de la cheminée pour réfléchir. Il se réveilla en sursaut un peu plus tard, alors que le feu s'était éteint. Nom des bourrasques ! S'endormait-il maintenant en milieu de journée ? Si seulement il ne passait pas tout ce temps à se retourner la nuit, la tête remplie de préoccupations et de fardeaux qui n'auraient jamais dû être les siens. Qu'était-il arrivé à ces jours si simples ? Sa main sur une épée, avec la certitude que Gavilar s'occuperait des parties les plus difficiles. Dalinar s'étira et se leva. Il devait aller superviser les préparatifs pour la publication de la proclamation du roi, puis s'occuper des nouveaux gardes. Il s'arrêta net. Le mur de sa chambre comportait une série d'éraflures blanches et nettes qui formaient des glyphes. Elle ne s'y trouvait pas auparavant. « 62 jours, disaient les glyphes. Puis vient la mort. Peu de temps après, Dalinar se tenait debout, le dos bien droit, les mains jointes derrière lui pour écouter Navani s'entretenir avec Rouchou, jeune ardente aux longs cils et aux lèvres pulpeuses, l'une des érudites de la famille Colline. Adeline, non loin de là, inspectait un morceau de pierre blanche découverte sur le sol. Elle avait apparemment été arrachée à la rangée de pierres ornementales qui bordait la fenêtre de la pièce, puis utilisée pour inscrire les glyphes. « Dos bien droit, tête haute, se dit Dalinar, même si tu meurs d'envie de t'affaler dans ce fauteuil. » Un dirigeant ne s'affalait pas. Un gouvernant restait maître de lui-même. Même lorsqu'il avait le moins l'impression de contrôler quoi que ce soit. Surtout dans ces moments-là.
« Ah !» déclara Rouchou. « Regardez-moi ces lignes imprécises, cette symétrie incorrecte. Qui que puisse être l'auteur de ces glyphes, cette personne n'est absolument pas entraînée à en tracer. Elle a tellement mal tracé « mort » qu'on croirait lire « brisé ». Sans compter que le sens est très vague. Puis vient la mort. Ou bien « succéder » à la mort, ou faut-il comprendre 62 jours de mort et après ? Ces glyphes manquent de précision.
« Contentez-vous de les recopier, Rouchou ?» lui demanda Navani, « et n'en parlez à personne. »«
Même pas à vous ?»
s'enquit distraitement Rouchou tout en écrivant. Navani soupira tout en se dirigeant vers Dalinar et Adeline.
« Elle est très douée pour ce qu'elle fait, » déclara tout bas Navani, mais parfois un peu tête en l'air. Enfin bref, elle connaît l'alphabet mieux que quiconque. C'est l'un de ses nombreux centres d'intérêt.
Dalinar hocha la tête et réprima ses peurs.
« Pourquoi quiconque voudrait-il faire ça ?
demanda Adeline en laissant retomber la pierre. « Est-ce là une forme de menace voilée ?»«
Non, » répondit Dalinar.
Navani croisa son regard.
« Rouchou, » dit-elle, « laissez-nous un instant. »
L'érudite ne réagit pas tout de suite, mais se retira précipitamment à la deuxième intimation. En ouvrant la porte, elle dévoila les membres du pont 4 à l'extérieur, menés par le capitaine Kaladin à la sombre expression. Après avoir escorté Navani chez elle, il était revenu pour découvrir cette scène. Puis il avait aussitôt envoyé des hommes rappeler Navani. De toute évidence, il considérait ce manquement à la sécurité comme sa propre faute et pensait que quelqu'un s'était faufilé dans la chambre de Dalinar pendant son sommeil. Dalinar fit signe au capitaine d'entrer. Kaladin le rejoignit d'un pas pressé, espérant que Dalinar ne remarquerait pas la façon dont la mâchoire d'Adeline se crispait lorsqu'il l'étudiait. Quand Kaladin et Adeline s'étaient affrontés sur le champ de bataille, Dalinar combattait le porte-éclat par Shendi, mais il avait entendu parler de leur altercation. Son fils n'avait pas franchement apprécié d'apprendre qu'on venait de nommer cet homme de pont sombre Iris à la tête de la garde Cobalt. « Mon général, déclara le capitaine Kaladin en s'avançant, vous me voyez embarrassé. Une semaine que j'occupe ce poste et j'ai déjà échoué. »
« Vous avez obéi aux ordres, capitaine, » répondit Dalinar.
« Les ordres étaient de garantir votre sécurité, mon général, » insista Kaladin d'une voix où perçait la colère. « J'aurais dû poster des gardes à chaque porte de l'intérieur de vos quartiers, et non pas simplement à l'extérieur. »
« Nous nous montrerons plus observateurs à l'avenir, capitaine, » répondit Dalinar. « Votre prédécesseur postait toujours les mêmes gardes que vous, et c'était suffisant. »
« Les choses étaient différentes alors, mon général, » rétorqua Kaladin en balayant la pièce d'un regard perçant. Il se concentra sur la fenêtre, trop petite pour qu'on s'y faufile.
« Malgré tout, j'aimerais savoir comment ils sont entrés. Les gardes n'ont rien entendu. »
Dalinar inspecta le jeune soldat à la mine sombre et au visage marqué de cicatrices. « Pourquoi, » songea Dalinar, « ai-je tellement confiance en cet homme ?» Il peinait à mettre le doigt dessus, mais, au fil des ans, il avait appris à se fier à son instinct en tant que soldat et général. Quelque chose le poussait à faire confiance à Kaladin, et il acceptait ce réflexe-là.
« Ce n'est pas très grave, » déclara-t-il.
Kaladin se retourna vivement vers lui.
« Ne vous tourmentez pas en vous demandant comment cette personne est entrée pour écrire sur mon mur, » poursuivit Dalinar. « Montrez-vous simplement plus attentif à l'avenir. Vous pouvez disposer. »
Il adressa un signe de tête à Kaladin qui se retira à contre-cœur et ferma la porte. Adeline s'avança. Le jeune homme aux cheveux en bataille était aussi grand que Dalinar. C'était parfois difficile de s'en souvenir. Il ne semblait pas s'être écoulé si longtemps depuis l'époque où Adeline était un petit garçon surexcité avec une épée en bois.
« Vous dites avoir découvert ces inscriptions en vous réveillant ?» commença Navani. « Et vous dites n'avoir vu personne entrer, ni entendu personne tracer ces signes. »
Dalinar confirma d'un signe de tête.
« Dans ce cas, » poursuivit-elle, « pourquoi ai-je soudain l'impression très nette que vous savez ? Pourquoi elle se trouve là ?»«
Je ne sais pas précisément qui les a tracées, mais je sais ce qu'elles signifient. »
« C'est-à-dire ?» insista Navani.
Qu'il nous reste très peu de temps, répondit Dalinar. Diffusez cette proclamation, puis allez trouver les hauts princes pour organiser une réunion. Ils voudront me parler.
La tempête éternelle approche. 62 jours, pas assez de temps. C'était apparemment tout ce dont il disposait.